Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co, saison 3. Chaque semaine, on va revenir sur les mutations et les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France bien sûr, mais aussi dans le reste du monde. Et vous allez le voir, on va tordre aussi dans ce podcast le cou à pas mal d'idées reçues sur l'économie. Cette semaine, on s'intéresse à l'argent magique, c'est-à-dire cette capacité qu'ont eu les États et singulièrement la France à trouver des centaines de milliards d'euros pour lutter contre l'épidémie. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, on avait l'idée chez les dirigeants de l'économie que tout devait se payer, qu'il n'y avait pas de marge budgétaire. Et il y a notamment un épisode qui me revient en mémoire, c'est celui d'Emmanuel Macron qui est interpellé par des soignants à la sortie d'un hôpital, soignants qui lui demandent des moyens supplémentaires. C'était avant l'épidémie, et Macron répond « il n'y a pas d'argent magique, au bout du compte, il faut que quelqu'un paye ». C'était en 2018. Et on vivait avec cette idée-là, et on avait encore évidemment la mémoire de la crise financière de 2010-2011, 2012, quand la France avait perdu son fameux triple A, c'est-à-dire cette note de solvabilité financière, et il n'y avait que 2 figure sur la scène politique française qui disait le contraire, c'était Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui tous les deux disaient qu'on pouvait se donner des marges supplémentaires avec la Banque centrale qui, créant de l'argent, pouvait ainsi le prêter au gouvernement. Ils étaient considérés comme des hérétiques, ils étaient réprouvés par l'ensemble des économistes. Et puis, 2 ans plus tard, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte », donc 424 milliards d'euros au total sur 3 ans, ce sont les chiffres du ministre des Comptes publics lui-même, Olivier Dussopt. Au plan mondial, ce sont des milliers de milliards qui ont été dépensés ainsi pour lutter contre l'épidémie, et ils ont justement été financés par les grandes banques centrales du monde entier, la Banque Centrale Européenne pour chez nous, mais la Fédérale Réserve aux États-Unis, au Japon, en Chine. Partout, on a fait tourner à fond la planche à billets. Comment ça marche? Les banques centrales émettent de la monnaie. Elles ont ce privilège dans nos économies d'être celles qui justement ont le droit de créer de la monnaie. En réalité, il ne s'agit que de changer quelques lignes sur un écran d'ordinateur. Et puis, avec cet argent créé à partir de rien, elles achètent des obligations qui sont émises par les États, c'est-à-dire qu'elles leur prêtent indirectement de l'argent. En réalité, justement, ça passe généralement par les marchés financiers, mais au total, ça revient au même. Ce sont elles qui alimentent la pompe à finances des différents gouvernements. Parallèlement, elles fixent les taux d'intérêt quasiment à zéro. C'est-à-dire que toute cette dette ne génère aucun intérêt, aucune charge supplémentaire, de façon à ce que les États ne soient pas handicapés. Ils auront bien sûr en principe à rembourser cet argent. Mais entre-temps, contrairement à ce qui se passait auparavant, ils n'ont pas d'intérêt à servir à ceux qui leur prêtent de l'argent, puisque justement, in fine, c'est la Banque centrale qui est un organisme public, qui a aussi le pouvoir de fixer les taux d'intérêt et qui les a mis à zéro. L'idée, c'est de manipuler l'argent, au fond, de façon à permettre aux États de dépenser. Pourquoi est-ce qu'on s'est converti comme ça brutalement? D'abord, le caractère, je dirais, mondial et exceptionnel de la crise. Exceptionnel, évidemment, c'était cette épidémie qui, de toute façon, justifiait évidemment des dépenses supplémentaires. Et puis les populations n'auraient pas compris qu'on lève des impôts massivement au moment où l'économie s'effondrait. Et c'était vrai dans la plupart des pays du monde. De plus, justement, parce que c'était mondial, ça supprimait un obstacle important sur lequel on butait auparavant. Parce que quand Le Pen et Mélenchon disaient « on a qu'à faire tourner la planche à billets de la Banque centrale », les orthodoxes disaient « mais les amis, si on est les seuls à faire ça, finalement, on va subir une sanction sur les marchés financiers ». C'est-à-dire que nos taux d'intérêt de marché, qui ne sont pas, eux, fixés par les banques centrales, vont monter et nous étrangler progressivement. Or, si tout le monde fait la même bêtise, en quelque sorte, le niveau de la bêtise n'est plus du tout le même. En réalité, le jugement des marchés financiers sur les États, il est en grande partie différentiel. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur le meilleur des États de façon à pénaliser les moins bons. Si tout le monde fait la même chose, les marchés ne peuvent pas faire ça. Et ils n'ont pas d'alternative, ils n'ont pas d'autre endroit dans lequel mettre son argent. » Alors évidemment, la question d'après, il y en a deux, c'est pourquoi ne pas faire ça tout le temps et qu'est-ce qu'on risque ? C'est un peu la même question. Pourquoi ne pas faire ça tout le temps ? On commence à l'entendre à propos de la transition énergétique. Certains disent, mais attendez, c'est au moins aussi grave qu'une épidémie, parce qu'il y a le risque de disparition de la planète, ça justifie qu'on mobilise des ressources exceptionnelles pour contrer tout ça, financer la transformation des logements, la construction d'éoliennes, etc., etc. Le problème, c'est que c'est dangereux. Et la théorie nous l'enseigne d'ailleurs. Quand on crée de la monnaie de façon, je dirais, intempérante, excessive, c'est-à-dire qu'on crée beaucoup plus de monnaie que l'augmentation de la richesse réelle, c'est-à-dire de la croissance économique, eh bien, il y a le risque d'augmentation des prix. C'est ce qu'on observe dans l'histoire. Normalement, la progression du stock de monnaie dans une économie et la croissance doivent être à peu près équivalents. Il faut en créer toujours un petit peu plus que l'année précédente, parce qu'il y a toujours un peu de croissance, mais si on en crée beaucoup plus, on prend le risque de voir l'inflation s'emballer. On l'a observé d'innombrables fois dans l'histoire, et même dans l'histoire, j'allais dire, préhistorique. Au XVe siècle, à partir du moment où on trouve des mines d'or ou d'argent, donc on augmente le stock de monnaie, puisqu'à l'époque c'est avec ça qu'on paye, l'inflation se déchaîne. Il y a des exemples beaucoup plus terribles, hein. C'est évidemment la République de Weimar dans les années 20 en Allemagne, où effondrée par la guerre, l'Allemagne crée beaucoup de monnaie pour faire face à ses dépenses alors qu'elle est très endettée, qu'elle est étranglée, notamment par la France, hein, qui veut qu'on lui verse des réparations. Ça finit extrêmement mal, hein. C'est des périodes de troubles sociaux. Il faut bien comprendre que l'inflation, c'est un phénomène économique, mais qu'il a des conséquences politiques et sociales extrêmement graves. C'est-à-dire que l'inflation, ça érode la valeur de l'épargne. Vous avez économisé 100, et tout d'un coup, ça vaut toujours 100 en apparence, mais ce que vous pouvez acheter ne représente plus que 50. Donc vous perdez du pouvoir d'achat, c'est la valeur du travail qui s'effondre. Et ça, de façon assez naturelle, les citoyens en conçoivent beaucoup de ressentiments parce qu'ils ont l'impression d'être spoliés, et ils ont raison. On a à plusieurs reprises, et dans le monde entier, des exemples où l'inflation dégénère en crise politique. L'hyperinflation de Weimar, c'est l'une des causes de la montée du nazisme. Ça n'est pas la seule, hein, mais c'en est une. C'est un poison, ça corrompt l'ordre social, la valeur de l'épargne et du travail, et on ne sait pas très bien comment l'arrêter. Ça aussi, c'est le problème. Il y avait une formule d'un banquier central assez célèbre, Alan Greenspan, qui dirigeait la Federal Reserve dans les années 80 et 90, qui disait « L'inflation, une fois que c'est sorti, on ne sait pas, c'est comme remettre du dentifrice dans le tube ». Et ça illustre bien la difficulté dans laquelle sont les banques centrales de contrôler cette hausse des prix. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a un peu d'inflation, mais pas énormément. On est à 4% dans certains pays, 5% aux États-Unis. C'est beaucoup plus qu'avant, mais on n'est pas encore dans des systèmes où on a perdu le contrôle. Mais on ne sait pas très bien ce que ça peut donner sur le moyen terme. C'est-à-dire peut-être que finalement, l'inflation n'est pas encore réapparue, mais que demain, par le fait que les salaires vont demander à être évalués, c'est ce qui va se passer en France, c'est ce qui va se passer dans toute l'Europe. Déjà, il y a des projets d'augmentation du salaire minimum, c'est très bien, hein, mais de fait, ça va contribuer à faire ce qu'on appelle les effets de second tour de l'inflation, qui peuvent eux-mêmes enclencher la spirale, provoquer une nouvelle hausse des prix, qui se répercute sur les salaires, etc. etc. De surcroît, il y a un autre phénomène qui se produit déjà aujourd'hui, c'est l'inflation des actifs, c'est-à-dire la valeur de l'immobilier, la valeur des cours boursiers, la valeur du marché de l'art, hein, les tableaux, etc. Tout ça progresse de façon extraordinaire, tout à fait inhabituelle et probablement complètement injustifiée. C'est là où il y a un risque dans ces politiques d'argent magique, c'est que ça provoque des bulles spéculatives sur les actifs, notamment sur le prix de l'immobilier. Le problème d'une bulle, c'est que ça risque d'exploser un jour ou l'autre, et que du coup ça pèse sur le système bancaire, ça crée une récession. C'est ce qui s'est passé en 2008. On va fêter, si je puis dire, l'anniversaire bientôt de Lehman Brothers le 15 septembre, mais ça peut encore arriver. Et puis l'autre problème, il est social. C'est-à-dire que cette inflation des actifs, elle enrichit les riches. Elle profite aux détenteurs de capital, c'est-à-dire les gens qui possèdent déjà des biens immobiliers, déjà des actions et qui voient leur patrimoine progresser, alors que les autres, ils restent collés au plancher. Donc c'est un facteur d'aggravation des inégalités, donc là encore un facteur de déstabilisation politique qui est très problématique. De surcroît, il y a un autre risque, et j'en parlais hier avec le responsable d'une grande institution financière française, pas un novice en matière de finances, qui disait le grand problème dans ces périodes justement où on descend artificiellement le taux d'intérêt à zéro, c'est qu'on n'appréhende plus le risque. Un investissement risqué et un investissement non risqué, on paye zéro dans les deux cas. Et du coup, ça amène à des comportements déraisonnables de la part des investisseurs financiers qui peuvent se traduire par une crise. Parce qu'un jour ou l'autre, à l'occasion d'un événement tout à fait contingent, c'est une guerre, c'est une crise politique, c'est la faillite de telle ou telle entreprise, eh bien, brutalement, la confiance s'évapore. C'est ça qui est au cœur du système monétaire. Quand je disais tout à l'heure, il suffit de créer de la monnaie avec un clavier d'ordinateur, on voit bien combien c'est fragile. La monnaie. C'est une question même de foi plus que de confiance. On a la foi aveugle dans les banques centrales. On ne questionne plus la valeur d'un billet de 20 euros parce qu'on est certain que si on l'accepte, la minute d'après, on pourra l'utiliser pour acheter un café ou une baguette et qu'il ne sera pas refusé. Or, c'est très fragile. Auparavant, tout ça était assis sur des stocks d'or dans les coffres des banques centrales. Il y en a toujours, mais ils sont tout à fait insuffisant pour couvrir l'extraordinaire valeur de la monnaie en circulation. Donc nous sommes sur un volcan, tout ça tient par la confiance, c'est un fil extrêmement ténu qui peut se briser à l'occasion d'événements tout à fait imprévisibles, comme il en arrive toujours dans l'histoire humaine. Et je dirais que la création monétaire massive que nous avons faite pendant le Covid a tendu encore ce fil fragile parce que, justement, elle nous met à la merci de bulles spéculatives qui peuvent éclater et donc provoquer une inversion brutale de la confiance. Le dernier problème de ces politiques d'argent magique, c'est qu'on ne sait pas très bien comment en sortir. En fait, j'ai fait comme si le Covid avait apporté par sa nouveauté, avait levé toutes les inhibitions. Ce n'est pas tout à fait vrai. Depuis 20 ou 30 ans, progressivement, face aux crises financières ou aux difficultés de toute nature, bon nombre d'États s'étaient déjà mis à faire cela. Au Japon, ça fait 20 ans, et c'était la conséquence de l'explosion d'une bulle en 89. Aux États-Unis et en Europe, on l'a fait aussi après la crise de Lehman Brothers en 2008, la crise de l'euro en 2010-2011. Et à chaque fois, on a beaucoup de mal à en sortir. Et du coup, on est obligé toujours de créer de l'argent surnuméraire et de maintenir les taux d'intérêt de façon artificiellement basse, ce qui perturbe l'appréciation du risque des investisseurs. Finalement, il y avait un économiste qui s'appelait Ayman Minsky qui a théorisé ça de façon très convaincante, je trouve. Il dit, dans les périodes de calme, eh bien, c'est l'instabilité qui se prépare parce que justement, on n'a plus de notion du risque. Et il dit, la stabilité crée de l'instabilité. De la même façon qu'on le voit après les crises, l'instabilité crée de la stabilité. Parce qu'une fois que vous vous êtes fait prendre les doigts dans la porte, que vous avez perdu des millions ou des milliers de dollars ou d'euros, vous êtes beaucoup plus prudent. Donc la leçon porte au moins un moment. Donc on voit bien que cette stabilité artificielle maintenue par les banques centrales, est, en réalité, très probablement, on ne le voit pas encore, mais il est très probable que ça soit le cas, elle crée des zones d'instabilité considérables dans le système financier mondial. Et on va découvrir ça. Est-ce que c'est dans 5 jours ou dans 5 ans? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais il est très probable qu'on ait à payer le coût de cette création monétaire intempérante sous la forme d'une crise financière très importante. Ça serait d'autant plus problématique par rapport à la dernière, celle de 2008, qu'à l'époque, les États avaient pu s'endetter pour contrer la crise, parce que leur bilan était sain. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Hein. Nous avons affaibli cette protection parce que justement les États se sont endettés pour lutter contre le Covid. Donc s'il y avait une crise de confiance, qui viendrait nous sauver ? Les banques centrales, elles-mêmes, ont leur bilan fragilisé parce qu'elles ont prêté aux États. Donc il faudrait demander... Il n'y a pas d'autorité supérieure au-delà de la banque centrale qu'on puisse venir solliciter pour pouvoir protéger l'économie mondiale. C'est-à-dire que la prochaine crise financière, je ne dis pas si elle arrive, elle va arriver. C'est immanquable. La question, c'est quand et de quelle ampleur sera-t-elle ? On peut redouter qu'elle soit importante. On peut penser que elle sera. Enfin, c'est toujours plus long que prévu parce que les systèmes sont tenus par tous les intérêts qui souhaitent que ça dure. Mais en réalité, souvent la réalité rattrape hein, les comportements imprudents de la part des financiers. Juste un dernier mot. Évidemment, tout ça peut sembler un peu inquiétant, mais il me semble que c'est la réalité là-dessus. Pour autant, on n'avait probablement pas le choix. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait bien contrer cette épidémie. Mais probablement, le coût que nous n'avons pas payé grâce à ce subterfuge du prêt de la Banque centrale nous reviendra sous une autre forme dans les années qui viennent. Ce qui me fait dire ça, c'est l'analyse, je dirais, relativement rationnelle des choses, et surtout l'expérience de l'histoire. L'histoire nous montre que ces opérations-là, c'est pas nouveau. Hein. De tout temps, les États ont voulu dépenser plus qu'ils n'ont. Et à l'époque des pièces d'or, ils le faisaient en rognant les pièces de façon à récupérer de la poussière d'or ou d'argent et à refondre. C'est de là d'ailleurs que vient l'expression « une monnaie sonnante et trébuchante hein. ». Le trébuchet, c'est la balance. À certaines époques, les souverains utilisaient tellement cette technique du rabiotage que quand on apportait des pièces d'or pour faire ses achats, eh bien, le commerçant il avait une balance sur laquelle il vérifiait le poids en or de la monnaie en question. Ça n'était pas autre chose que ce que nous faisons aujourd'hui. Et de tout temps, ces techniques amènent une correction, c'est-à-dire une crise financière ou une crise sociale ou une crise de confiance, généralement doublée d'une crise politique. C'est pour ça qu'en croisant les doigts, on peut espérer que cette crise n'est pas prochaine et qu'on trouvera le moyen de la lisser dans le temps, mais qu'en tout cas, l'idée d'utiliser à perpétuité l'argent magique est une idée qui, je crois, est assez dangereuse. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast hebdomadaire de Langue Éco. Rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez aimé, eh bien, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires. À la semaine prochaine.